France Inter. Le 7-9.
Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Claude, ce matin, la trop grande fatigue d'un chirurgien.
Qui était de garde ce chirurgien dimanche dernier dans un hôpital de la région parisienne, juste au moment où Simone Veil rentrait au Panthéon. Et après une opération, ce chirurgien dit ceci: j'en ai assez, je suis fatigué, je m'en vais. Alors il retourne dans son bureau, ferme sa porte et quand des infirmières inquiètes passent par le balcon pour le retrouver, elles le voient inanimé. Ainsi commence par cette tentative de suicide le dossier de libération sur l'hôpital en état d'urgence absolue. Et il y a un effet d'accumulation. Quand nous parlions hier de la police et de la gendarmerie qui sont à l'os et au désespoir, aujourd'hui, des hôpitaux en manque de moyens et de personnel en butent aussi peut-être un égoïsme de caste que dénonçait hier Agnès Buzyn, la ministre à l'Assemblée nationale. Elle accusait Agnès Buzyn, ces médecins qui refusent de faire des remplacements dans les hôpitaux, qui osent plafonner leur rémunération, des mercenaires, dit-elle, qui travaillent à la journée, payés 2 000 euros par jour, accusation reprise dans le quotidien du médecin sur Internet. La crise est hospitalière, la crise est politique. Vous verrez dans Paris-Normandie l'opposant François Ruffin venu soutenir les grévistes perchés. Ce sont les personnels de l'hôpital Pierre-Janet du Havre qui sont montés sur le toit de leur établissement pour protester entre autres contre des suppressions de lits. Le même député Ruffin, dans son journal Fakir, dénonce dans un dialogue réjouissant et imaginaire avec Montesquieu la macronarchie. On comprend la monarchie qui serait organisée autour du président, et l'opposant suggère ainsi un paysage d'un pays qui souffre sous un dirigeant de bon plaisir. De bon plaisir ? Curieusement, Le Figaro, de droite, décrit le pouvoir et la communication d'Emmanuel Macron exactement dans les mêmes mots. Et le grand quotidien de la droite française a donné la parole à un grand journaliste de gauche, autrefois plume et référence du Nouvel Observateur, François Bazin. Fin observateur des communications politiques, mais aussi, est-ce un hasard, confident longtemps de François Hollande. Et il dit ceci, François Bazin, dans Le Figaro, à propos d'Emmanuel Macron: il est inaccessible à l'idée de contradiction, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, appelez ça comme vous voulez, caprice des dieux ou gouvernement du bon plaisir. Et encore François Bazin: le système tout entier est centré sur un président omniscient et omniprésent, il est comme une statue dressée en majesté au centre de la place. Est-ce exagéré ? Le Parisien titre aujourd'hui un article « Ce que prépare Macron pour les pauvres ». Ce que prépare Macron pour les pauvres, et par un titre, le journal en dit plus qu'il ne voulait exprimer. Et on apprend aussi que si jamais l'équipe de France s'en va en demi-finale de la Coupe du Monde de football, eh bien le président annulera une visite de terrain consacrée au RSA pour aller, c'est son plaisir, c'est son droit, en Russie.
À côté de la Russie, Claude, l'Inde et ses stupéfiants où on célèbre l'assassin de Gandhi.
Et c'est le monde qui nous le raconte et qui raconte ainsi l'état exact d'une puissance mondiale en proie à la passion identitaire. À Pune, dans l'ouest de l'Inde, une urne en argent est révérée comme les reliques d'un saint. Elle contient les cendres de Nathuram Godse qui assassina Gandhi le 30 janvier 1948 pour faire payer au Mahatma son choix d'une Inde multiculturelle où les musulmans feraient partie de la nation et les enfants des écoles viennent le révérer. Et dans cette Inde aujourd'hui gouvernée par des nationalistes hindous qui parlent parfois comme Godse sans oser le revendiquer, le culte de l'assassin n'est pas innocent. Ce reportage excellent dans Le Monde ne parle pas seulement de l'Inde, il témoigne d'un monde en régression et ces mots du Bhagavad Gita qui fonderaient le nationalisme hindou pourraient être psalmodiés comme d'autres fanatiques que nous connaissons. Lève-toi, car le sage ne se lamente ni pour les vivants ni pour les morts. Ton devoir de guerrier est de mener une guerre juste. Nous vivons dans un monde incertain où, nous dit la Croix, le président Trump nous prépare une guerre commerciale et va ruiner l'économie mondiale. Nous vivons dans un monde où les rumeurs s'emparent de nous. Heureusement, le Figaro ce matin fait justice, dit-il, d'une escroquerie intellectuelle qui nous terrifia il y a 6 ans. Non, il n'est pas démontré que le maïs OGM donne le cancer, contrairement à ce qu'affirmait en 2012 une étude biaisée réalisée par un chercheur militant.
Les yeux, Claude, les yeux d'un chien pour finir.
Qui sont beaux à nous réparer l'âme, à la une de Télérama. Les chiens que le grand photographe américain Wegman a photographié sa vie durant, grimés en humain, mais ne le sont-ils pas déjà? L'autre vedette de Télérama, Céline Renaud, nonagénaire, on le sait, qui passionne nos hebdomadaires, façon vacharde et assez drôle dans l'Express, qui s'interroge sur le rôle politique de cette ancienne meneuse de revue qui connaît tous nos présidents. Et l'Express ose dans la voix d'un anthropologue ceci: dans certaines tribus africaines, les femmes qui atteignent la ménopause peuvent accéder au statut de chef de lignage, qui sinon est réservé aux hommes. Peut-être Lynn Renault est-elle devenue chef de lignage. Oh, 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 oh. Heureusement, Télérama interroge plus simplement la dame, et c'est superbe, cette vedette populaire, dans un journal réputé un télo, Lynn Renault, qui était un beau brin de fille que son joli brin de voix avait envoyé à Paris, où elle logeait à Pigalle, dans un hôtel de passe, où les copines prostituées lui prêtaient de la vaisselle. Lynn, qui avait rendu la grande piaf jalouse parce qu'elle était belle, Lynn. Lynn, qui nous raconte son vieux mari, Loulou Gasté, qui écrivait des chansons, et qui, dès leur première rencontre, elle avait 17 ans et lui bien plus, l'emmena sur sa moto dans sa garçonnière. Je ne pourrais pas dire qu'il m'a violée, dit Lynn. J'étais consentante, il était tellement beau, c'était ma première fois. J'avais 17 ans. Aujourd'hui, il ira en prison, Loulou. Mais non. Allez, j'en termine. À propos de Guéluron, le courrier Picard m'alerte sur les malheurs d'un petit établissement honnête et discret, situé à Heudicourt. Le club privé La Détente, établissement libertin ouvert les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Victime de travaux sur le réseau d'eau de la commune qui ont amené la fermeture de la route des 58. Or, c'est par cette route que parfois, depuis l'Île-de-France, les libertins viennent à La Détente. Alors que faire? Se garer dans le centre du village et aller à pied sous le regard des paroissiens? Heureusement, monsieur le maire, le week-end dernier, a accepté que les panneaux d'interdiction soient couchés. Les panneaux d'interdiction sont couchés pour parvenir à La Détente. Quelle logique.
Merci Claude pour cette revue de presse.